Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Aujourd'hui, on se repenche sur une exposition proposée par le FRAC depuis fin février. Le FRAC, c'est cette institution messine rue des Trinitaires. C'est le Fonds Régional d'Art Contemporain qui, depuis quelques années, a la délicieuse habitude de nous proposer de découvrir des artistes fascinantes, le plus souvent méconnues du grand public de l'art contemporain. Cette fois, en collaboration avec la Hausalm Waldsee à Berlin et le centre d'art Spike Island à Bristol en Angleterre, il s'agit de découvrir le travail de l'artiste afro-américaine Beverly Buchanan. Cette exposition s'appelle Impermanence. Au FRAC, c'est en effet la première exposition française dédiée à cet artiste décédé en 2015. Une artiste au parcours singulier, puisqu'après une enfance marquée par la ségrégation, elle quittera la Caroline du Sud pour New York au milieu des années 60. Là, après des velléités de travail dans le domaine de la santé, elle étudie l'art auprès de Norman Lewis, figure de la Harlem Renaissance. Elle y fait ses premiers pas dans le monde de l'art, mais très vite, la nostalgie du Sud natal la gagne, elle y retourne, elle déménage en Géorgie en 77, un territoire qui a encore à l'époque gardé les stigmates de l'esclavage, dont elle n'aura de cesse de porter le témoignage au travers de son art. Un art multiple, puisqu'elle ne s'est fixé aucune limite technique, et comme on peut le voir au FRAC Lorraine, à Metz, elle a touché à la peinture et au dessin, des pastels vibrants, des fusains qui captent l'énergie, la vibration des lieux. La sculpture, avec ses cabanes en bois qu'on peut voir à Metz ou les blocs de ciment, la photographie et la vidéo, dans un travail qui est proche de la documentation. Elle a donc photographié et filmé les habitations réelles et les ravages du temps. Et le land art, à travers des installations in situ qui s'intègrent et se dégradent avec la terre. À l'image de cette fameuse réflexion sur la mémoire, March Runs, créée en 81 dans les marais de Géorgie, où elle rend hommage au peuple Igbo qui, en 1803, choisit le suicide collectif plutôt que l'esclavage et s'avançant dans l'eau en chantant. Une œuvre constituée de monticules de béton et d'éléments organiques qui apparaissent et disparaissent au rythme des marées. Une esthétique de l'effacement qui hante un paysage. Paradoxalement, cette œuvre est présente, même à distance, dans l'exposition au FRAC Lorraine. Cette exposition, rappelons-le, elle s'appelle Impermanence. Au fil des pièces du FRAC, c'est un choc visuel et émotionnel qui attend le visiteur. Car l'art de Beverly Buchanan tourne autour des petites choses de rien. Quelque part, ça renvoie à l'arte povera, de l'art pauvre, populaire, proche du folk art. Ces maisons qu'on voit, ces cabanes, fabriquées avec de mauvaises planches de bois, des clous, brinque-ballantes, mais aussi son témoignage avec les fusains de fleurs sauvages, sa façon de récupérer des objets trouvés, d'en faire des branches ou un minuscule sapin de Noël. Mais on peut voir aussi ses carnets qui témoignent des récits qu'écrivait Beverly Buchanan autour des gens qu'elle rencontrait, ces invisibles du sud des États-Unis. Ainsi, le FRAC met en lumière son attachement porté au mode de vie des communautés noires rurales du sud des États-Unis. Une étude de l'architecture vernaculaire des communautés noires des États du sud des États-Unis. En effet, l'artiste s'est intéressé aux anciennes bicoques d'esclaves réhabilitées par leurs nouveaux occupants, aussi bien qu'aux cabanons construits ex nihilo à partir de planches de bois glanées ici ou là. Au-delà de la communauté afro-américaine et des subsides de l'esclavage, c'est de la pauvreté qu'elle se fait le miroir. Ces cabanes, elle les a peintes dans des fusains très colorés, leur conférant une atmosphère chaleureuse et vivante, comme pour mieux rendre hommage à leurs anciens occupants, avant de les fabriquer plus tard. Pour nous en parler, Fanny Gonella, la directrice du FRAC Lorraine et la commissaire de l'exposition, qui nous parlera également de l'invitation qu'elle a faite à l'artiste française Hélène Yamba-Gumbi, dont cinq œuvres viennent dialoguer en ponctuant le parcours de l'exposition consacrée à Beverly Buchanan. On retrouvera un peu plus tard Hélène Yamba-Gumbi qui a également répondu à nos questions. Mais Fanny Gonella a aussi parlé de l'artiste qui a été invité dans la partie Degré Est, ce lieu habituel de l'institution dédié aux artistes du Grand Est. Et cette fois-ci, c'est Anaïs Marion qui elle-même a répondu à nos questions. Ce sera en fin d'émission. Pour le moment, écoutons Fanny Gonella, la directrice du FRAC Lorraine et commissaire de cette exposition Impermanence consacrée à Beverly Buchanan. Cette exposition au sujet de Beverly Buchanan, pourquoi déjà? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous porter vers le travail de cet artiste qui est relativement méconnu, surtout en Europe, et en partenariat avec deux autres lieux en Europe, à Berlin et en Angleterre.
Et à Bristol, ouais, exactement, on travaille avec d'autres institutions. Le choix de Beverly, j'ai envie de dire qu'il est assez évident une fois qu'on a découvert son travail, mais sa redécouverte est assez récente en fait. Et c'est une jolie histoire parce que c'est une artiste qui a redécouvert Beverly. C'est une artiste qui était invitée par le Whitney Museum à New York à faire une présentation de son travail. L'artiste s'appelle Park MacArthur. Et puis elle dit « j'ai pas envie de parler de moi, j'aurais parlé de quelqu'un d'autre ». Et donc elle a demandé à l'institution s'il gardait des traces, des dossiers, des projets qui avaient été refusés. Pour des résidences, pour des acquisitions ou autre. Il dit bah oui, on garde un archive des dossiers refusés. Et donc elle s'est plongée dedans, elle est tombée sur le travail de Beverly et elle est tombée complètement amoureuse du travail. Donc elle s'est dit je vais aller rencontrer cet artiste et elle a donc échangé avec Beverly. Et de là est né un livre dans un premier temps, puis une exposition au Brooklyn Museum en 2017. Alors, tristement, Beverly décède entre les deux en 2015, mais Park MacArthur avait commencé à préparer l'exposition avec Beverly. Et de là, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce travail incroyable? Et donc, voilà un peu l'histoire. Et il y avait eu une exposition un peu plus, pas théorique, mais avec des objets plus petits, beaucoup d'éphéméras, parce que Beverly a fait beaucoup de cartes de vœux, de fanzines, de choses comme ça, donc... Il y avait toutes les traces autour du travail, on va dire, qui étaient présentées à Zurich, à l'université. Et puis voilà, ça a commencé à grandir. Et on voit qu'en fait, c'est une artiste qui fascine parce qu'on a donc l'itinérance de l'exposition était prévue donc avec Berlin et Bristol. Et on a un lieu en Hollande qui s'est accolé à cette tournée de Flesal à Middlesbrough. Et on avait aussi été contacté par Goldsmith à Londres, qui voulait aussi présenter le travail. Et j'ai reçu aujourd'hui un appel d'une autre institution qui me disait « Ah, ça m'intéresse, est-ce que je pourrais m'ajouter l'itinérance ?»
Eh bien.
Donc oui, c'est une artiste très... qui fait du... En fait, elle fait du sens en ce moment aussi, je pense.
Oui.
C'est peut-être ça qui fait qu'il y a des artistes, quand on les redécouvre à un moment donné, on se dit « Ah, ça nous parle d'autant plus qu'il y a un sentiment de fragilité dans la société, il y a un sentiment de vivre un peu dans cette... Dans les ruines d'une civilisation qui est en train de s'autodétruire. Et cette réflexion sur la ruine, sur le « je suis encore là » de Beverly, elle est magnifique et je pense que même dans 20 ans, 30 ans, 45, on continuera à la regarder en se disant « waouh, quelle force dans ce travail !» Mais on a aussi, par les circonstances actuelles, quelque chose de particulièrement pertinent.
Et puis il y a une richesse assez énorme. Il y a quantité de médiums qu'elle a utilisés. Vous parliez de choses toutes petites jusqu'aux choses très grandes qui sont dans le paysage.
Oui. Alors ça, c'est un des challenges de l'exposition, je dirais. C'était comment réussir à rendre visibles tous ces projets dans l'espace extérieur, dans l'espace public. Donc nous, on a effectivement des dessins, on a des photos. Parce que c'est ça aussi qui est fascinant, c'est qu'elle a documenté ses sculptures par des photos, et moi je pense tout de suite à Brassailles qui documente Brancusi, quoi. Enfin, il y a vraiment une qualité dans la documentation du travail, une conscience très acérée de la manière dont la lumière va tomber sur une sculpture, va changer son aspect. Enfin, c'est une mise en scène presque dramatique de ses œuvres, c'est assez fascinant. Mais pour revenir à cette question des œuvres dans l'espace public, donc Beverly, oui, dès le départ, elle a toujours cherché à faire en sorte que ses œuvres... Elle réfléchit beaucoup à l'extérieur, donc ses œuvres étaient liées à l'extérieur, même quand elles sont présentées dans l'institution. Et toujours l'intérieur et l'extérieur, c'est une dynamique très importante pour elle. On a dans la pièce juste à côté la cabane qui est inside out, donc l'intérieur est à l'extérieur, donc les meubles sont à l'extérieur autour, les panneaux qui devraient être sur la cabane sont à l'intérieur, bref, elle a remis tout ça en tension.
Il y a un jeu sur la porosité des frontières, en fait.
Aussi, complètement. Elle a aussi beaucoup été fascinée par les arrière-cours, ces espaces qui sont à la fois, on va dire, presque domestiqués avec des restes du quotidien, et en même temps, c'est déjà l'extérieur, tous ces jardins aussi, comme ça, un petit peu autour des maisons. Et comment faire rentrer l'extérieur dans une institution? Ça, c'est vraiment une question que je me suis posée en me disant, oula, comment on va faire? Et j'ai la beauté du projet transparaît à travers la documentation, mais l'énigme reste encore entière. Mais il faut imaginer que Beverly, elle a fait donc ce projet comme ça, sur le bord de l'Atlantique, dans un marais, donc l'œuvre en plus disparaît. Donc il y a un rapport très particulier à la visibilité chez cette artiste, où elle ne va pas chercher à être dominante, monumentale, même quand elle fait des monuments. Et c'est ça qui est sublime, c'est qu'en fait, elle réussit à faire des choses qui disparaissent avec le temps. De la même manière que la mémoire s'érode avec le temps, ces monuments s'effritent avec le temps.
Pour ponctuer cette émission au long cours, on a demandé à Fanny Gonella de nous proposer quelques pauses musicales. On commence avec quelque chose qui forcément nous renvoie au sud des États-Unis et à l'image de la ségrégation, avec Billie Holiday et le fameux
Strange Fruit. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here is a strange and bitter crop.
Comment vous avez cherché à incorporer ces notions d'héritage et de récit qui cheminent tout au long de son travail?
Je dirais que ça s'est matérialisé à plusieurs niveaux, parce qu'il y avait d'une part cette question de la durée qui est différente chez elle. Donc, dans la grande salle au premier étage, on a cherché presque à mettre tout ça en scène comme un champ de ruines, et on est dans une forme de fragilité, d'abandon, de nature qui reprend ses droits. Ça, c'est un petit peu la narration qui sous-tendait la réflexion quand on a pensé cette salle-là. Mais tous ces récits, en fait, on s'est retrouvés pour la première fois quand on rédigeait les textes pour les visiteuses, en fait, avoir beaucoup plus de citations que d'habitude. On a eu besoin de faire parler l'artiste. Et on a aussi présenté quelques œuvres où il y a, à côté du dessin, quelques phrases rédigées par Beverly qui parlent de cette personne qu'elle a portraiturée, ou en dessinant la maison, elle disait qu'elle faisait des portraits de personnes. Donc on a aussi des extraits de livres que Beverly a fait avec le texte. Donc la voix de Beverly, on a essayé de la donner, de la faire continuer à exister dans cette exposition. Avec beaucoup d'humour aussi.
Oui. Et ce qui est presque paradoxal, parce qu'on ne s'imagine pas cette notion-là, justement.
Ouais. Ben, je pense que pour réussir à survivre, il faut avoir un peu d'autodérision. et que l'humour, c'est ce qui nous sauve de plein de choses. Donc, mais elle se moque pas vraiment d'elle-même, mais c'est tellement dur. Elle a eu donc un asthme très fort, et à force de prendre des corticoïdes, ça a déclenché un diabète chez elle. Bref, donc il y a eu plein de complications de santé. Et elle jouait beaucoup aussi avec le fait que dans le monde de l'art, on est toujours censé arriver, l'artiste, il a comme ça une vie un peu détachée du quotidien, un peu magique, c'est un être, un démiurge. Voilà. Elle disait, bah non, moi j'ai des problèmes de santé, je pourrais pas venir au vernissage. Et c'est comme ça. Et il y a un portrait dans une des salles qui est une petite photo sur laquelle elle a fait tamponner au tampon. Je me bats pour maintenir les apparences. Et je dis, mais waouh! Et on la voit, elle, dans une photo en gros plan, qui la favorise, enfin, c'est pas du tout flatteuse, mais elle s'en fiche, quoi. C'est ça la réalité, c'est la brutalité de la vie, et on va avec, quoi. Et donc, oui, et puis c'est je pense, c'est l'arbitraire, l'absurdité de la vie qu'elle a dû apprendre très rapidement, à laquelle elle a trouvé un sens aussi dans ce fait qu'on ben, on peut pas tout contrôler, quoi. Et autant accepter, parce que voilà. Que faire?
Ce qui m'a frappé aussi, c'est la coïncidence de cette exposition-là, où il y a quand même la notion de matériau de récupération qui est là, avec, en pendant, au Centre Pompidou, Louise Nevelson.
Alors oui, c'est intéressant que vous le mentionniez, parce que Beverly et Louise se connaissaient. Elles étaient amies, et donc il y a plusieurs lettres. Voilà, une des personnes qui a un archive important de Beverly me disait, mais j'ai des lettres de Louise Nevelson. Je pense qu'en fait, on a parfois l'impression que Beverly, vivant dans le sud rural des États-Unis, elle était peut-être isolée du monde de l'art, mais pas du tout. Elle a fait des études d'art à New York et elle a été très intensément en contact avec de nombreuses, autres artistes qui réfléchissaient à toutes ces questions de comment donner forme à cette réalité. Beverly, on a du mal à imaginer en voyant son travail, mais au départ, elle est pleinement intégrée dans la mouvance de l'expressionnisme abstrait. Pour ça, c'est ça qui l'intéresse. Et c'est ce qu'on voit un tout petit peu au-dessus dans ces murs noirs. Mm-hmm. Les Black Walls, c'est des peintures de surface noire. Et elle part vraiment de la peinture et ensuite elle va aller vers l'architecture. Mais c'est intéressant de se dire que c'est la peinture qui va l'amener à l'architecture. Elle se dit, je me balade dans la ville et tout à coup, je les vois, les murs noirs que j'avais peints, ils existaient en vrai. Et là, elle va commencer à s'intéresser aux infrastructures.
Et comment vous est venue l'idée de ce dialogue avec le travail d'Hélène Yamba-Gimbi?
L'invitation à Hélène s'est faite dans un désir de mettre en dialogue la production artistique de Beverly Buchanan avec une personne d'une autre génération, d'un autre contexte géographique, mais partageant un héritage diasporique culturel. Il y avait ce désir de pas juste présenter une artiste, mais de la présenter en ayant conscience, en montrant qu'on a conscience que c'est dans un contexte français que tout ça se passe, qu'il y a des ponts, en fait, entre les générations, entre les zones géographiques, qui sont parfois plus importants qu'on ne le pense. Et Hélène, très vite, quand elle a vu le travail de Beverly, elle a dit, moi, je veux travailler pour apporter du contexte, en fait, au travail de Beverly. Hélène travaille la sculpture aussi. Et elle disait, moi, ce qui me frappe et qui m'intéresse, c'est que finalement, Beverly, elle est dans un rapport très physique aux œuvres d'art. Elle les fabrique. On voit que c'est un travail où son corps est en action. Et c'est un corps qui travaille aussi dans le sud des États-Unis, dans la chaleur, dans une atmosphère très moite. Donc, il y avait le corps dans l'effort, en fait. C'était ça qui l'intéressait. Et donc c'est par ce biais-là qu'elle a voulu apporter du contexte. Je trouve ça très intéressant. C'est ensuite, en lisant tous les documents, qu'elle s'est rendue compte que Beverly avait un asthme important qui allait conditionner pas mal de composantes dans son travail et dans sa vie. Et donc voilà, Hélène est partie de cette question de l'effort et nous a dit « je voudrais enregistrer des respirations ». Moi, à ce moment-là, j'écoute une conférence de Françoise Vergès qui nous dit « respirer, c'est un acte politique ». Ça résonne avec plein d'autres choses que j'avais entendues sur la respiration. Respirer de manière libre dans un air qu'on peut respirer, qui n'est pas totalement abîmé, c'est aussi un privilège. Quand on voit la manière dont certains pays peuvent être exploités avec des industries qui rendent la vie, le quotidien, les gestes très simples du quotidien, presque dangereux. Bref. Donc voilà, cette question de la respiration, c'est glisser dedans. Et pour la petite anecdote, c'est intéressant parce que donc, l'exposition à Berlin avait aussi une artiste associée qui s'appelle Ima Abassi-Okun, qui est une artiste qui vit entre Londres et Amsterdam. Et Ima, elle a repeint tous les murs de l'institution avec un pollen jaune. Donc on a cette peinture comme ça, qui n'a pas du tout la même qualité que les peintures classiques. Et il faut savoir que Beverly est allergique au pollen. Donc il y avait aussi tous ces murs qui représentaient, donc là, dans une artiste qui réfléchit à l'architecture, le mur était transformé en une zone de danger. Enfin, c'était intéressant aussi. Donc voilà, je pense que cette question de la physicalité de Beverly, puis il y a aussi quelque chose qui pour moi est frappant, c'est que chez Beverly, le corps joue un rôle essentiel, mais il est presque jamais représenté. Et donc il y a cette absence du corps aussi qui finalement est ramenée par les artistes qui le...
Il est présent dans la pesanteur qu'on peut déceler.
Oui, on sent sa présence.
Voilà.
Mais il n'est jamais représenté. Mmh. Mais on voit qu'il y a eu quelque chose... C'est cette chaise, elle est faite pour être utilisée par un corps, alors ses proportions font qu'elle est, elle est devenue trop exsangue, mais oui, il y a de ça aussi. Et puis ensuite, Hélène a commencé à travailler sur cette question de transparence, d'opacité. Hélène, c'est aussi quelqu'un qui travaille beaucoup par strates. Et ça m'intéressait pour que ça résonne de manière formelle aussi avec Beverly. Donc Hélène, elle recouvre, elle dissimule, elle réparait. Et on s'est retrouvé avec des pièces beaucoup plus électriques et très, un peu technologiques aussi, mais avec une manière de faire très, très bricolage, en fait. C'est pas parfait, il y a des câbles qui dépassent. On sent que c'est fait soi-même. Et cette économie précaire, en fait, dans la forme aussi, elle me parlait. Je trouvais qu'il y avait une résonance intéressante.
Les autres institutions aussi font appel à une autre artiste ou un autre artiste pour faire résonance, pour faire un dialogue.
Tout à fait. Donc c'était cet artiste Ima Abassi-Okun qui a peint les...
Voilà, Berlin et la Hollande, mais pour Bristol.
Pour Bristol, c'est Phoebe Collins-James, qui est une artiste britannique qui, elle, a priori, est en train de travailler sur des poèmes. Donc on est encore sur autre chose. Et de Flessal, comme Ima est également habite également en Hollande, ils sont en train de réfléchir à retravailler avec elle pour la station à Middelburg en Hollande. Donc c'est bien parce qu'elle ouvrirait, elle bouclerait le tour en Europe. C'est aussi beau de voir comment une artiste d'une autre génération s'empare du travail de Beverly, ce que ça évoque, et aussi comment quelqu'un qui travaille finalement avec la sculpture regarde le travail de Beverly.
Pour terminer, juste quelques mots sur l'exposition d'Agnès Marion.
Oui.
Une belle expo, enfin, c'est une itinérance en fait sur un travail entre Berlin et Bagdad. Elle a refait le chemin que faisait la ligne de chemin de fer avant, en transportant un petit taureau ailé, rappelant la Mésopotamie. Pourquoi également ce choix ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le travail d'Agnès Marion ?
Agnès Marion, moi j'avais eu l'occasion de découvrir son travail il y a quelques années. Et je m'étais dit, c'est quelqu'un qui aime raconter des histoires. Et je trouvais ça intéressant de voir comment elle allait raconter des histoires liées au territoire, possiblement. Et donc c'est pour son talent de conteuse, conteuse fragmentaire, hein, parce qu'évidemment elle va raconter des choses sans tout dire, donc c'est à nous de combler les manques. Et il y a aussi cette idée de la lacune que j'aime bien chez elle. Et comme à chaque fois, entre Degré Est et l'autre exposition, ben, il y a des résonances qui s'établissent, et là c'est le sujet de la ruine qui est apparu de manière assez saillante. Et je me suis dit, ah waouh, c'est fou parce que des fois on met les choses en dialogue et on ne sait pas très bien où ça nous amène, mais il y a toujours finalement une résonance qui se produit à un endroit inattendu, et c'est ça qui est beau aussi. Et la dimension, on va dire, Agnès Marion, un mélange de langage un peu à la fois méticuleux, très structuré et en même temps poétique, donc on regarde toutes les mesures de distance et en même temps il y a une partie d'irrationnel qui se glisse dedans, qui fait que on se dit qu'un géomètre ou un géographe n'aurait pas pu faire ce voyage de la même manière.
Mais c'est un joli complément à la permanence.
Oui, il y a cette question de la de monuments transitoires en fait. Et c'est une question aussi qui était remontée c'était en 2018-19 quand il y avait eu aussi pas mal de statues qui avaient été déboulonnées. On s'est dit, mais à qui on rend hommage, quelle histoire on raconte? Et cette forme du monument, elle nous encombre de cette histoire et elle nous rappelle aussi des choses qu'il faut pas oublier. Donc il y a tout ce rapport au passé, à la mémoire et à là d'où l'on vient qui est, je pense, renégocié en ce moment et c'est intéressant de l'observer.
Je vous remercie.
Avec plaisir.
Deuxième pause musicale, toujours choisie par Fanny Gonella. Cette fois, on passe aux années 80 avec un groupe originaire de Géorgie et plus principalement de la ville universitaire d'Athens. Ce sont les B-52s et le morceau s'appelle Love Shack. Je suis sûr que vous connaissez. Tournons-nous maintenant vers la jeune artiste Hélène Yamba-Gimbi, dont les cinq œuvres lumineuses et sonores, jouant avec le souffle humain enregistré, esquissent des échos parfois bouleversants avec l'œuvre de Beverly Buchanan. Bouleversant parce que, on le saura, Beverly Buchanan a terminé sa vie avec de gros problèmes de santé et notamment de diabète et de respiration.
Je m'appelle Elanian Bagimbi, je suis sculptrice. Je suis passée par les Beaux-Arts de Paris-Cergy et CalArts, une école d'art à Los Angeles, Valencia pour être précise, où j'étais en esthétique et politique. Et je suis artiste, on va dire, à plein temps depuis un an.
Parlez-nous de votre travail en général. Comment on pourrait définir votre travail en tant qu'artiste ?
Disons que j'ai plusieurs pratiques. Donc, j'ai une pratique principale qui est de sculpture. Donc, je fais des sculptures lumineuses surtout. J'ai aussi une pratique de la photographie et j'écris des petites formes, des petites nouvelles, on va dire, courtes, qui sont faites pour être diffusées dans les espaces d'exposition où j'expose.
Cette dimension, vous avez parlé que vous avez une formation esthétique et politique à Los Angeles, c'est ça ? De quelle manière elle a pu influer sur votre travail ou votre recherche ou votre inspiration ?
Disons que dans la façon dont on enseigne les beaux-arts aujourd'hui, il y a une grande dimension théorique les premières années. On nous pousse à lire, s'instruire et à développer une pensée politique dans notre travail. Moi, personnellement, je consommais beaucoup de théories américaines qui venaient de Los Angeles, l'Ouest américain. Et à un moment, je me suis dit, ah tiens, pourquoi pas aller carrément là où les personnes que je lis on travaille et aller dans un département un peu plus académique après les beaux-arts pour développer une pensée qui est personnelle et peut-être plus à l'aise avec ces concepts. Et je pense que ça m'a permis de développer une réflexion assez confortable dans le sens où j'ai vraiment un travail un peu plus de théorie qui se retrouve plus dans les écrits et dans ma pratique de sculpteur. Peut-être que j'ai besoin moins de me justifier et que cette théorie politique apparaît par moment, mais j'ai aussi ma pratique de sculpteur, ma réflexion de sculpteur avec le matériau et la pensée politique apparaît à certains endroits et j'arrive à travers les textes.
Et à travers tous ces différents filtres, du coup, de quelle manière vous souhaitez interpeller les personnes qui voient vos œuvres ?
Je pense que pour moi, justement, c'est assez intéressant de développer des projets avec des choix, on va dire. Dans ma démarche, il y a des choix qui sont faits et je sais où je vais, où je sais ce que j'ai envie de communiquer à certains endroits. Mais pour moi, c'est assez important, justement, que dans les pièces que je produis, il y ait aussi des sortes, peut-être pas d'ellipses, mais un espace pour que les personnes puissent lire ou projeter ou finir l'histoire à leur façon, de garder des pièces qui soient assez ouvertes. Et justement, je pense personnellement, des fois, je vais voir des œuvres d'art ou je vais voir des expositions que je trouve très bien, mais peut-être qu'ils sont un petit peu trop pédagogiques ou peut-être un peu trop discursives. Et je pense que l'art est un langage en soi et la théorie politique utilise une autre forme de langage. Et justement, c'est bien de garder des portes ouvertes ou des fenêtres ouvertes où les personnes puissent finir les... Enfin, garder quelque chose qui soit assez ouvert. Je ne sais pas comment vraiment dire. Désolée.
Il y a un rapport émotionnel avec l'art de toute manière. Enfin, normalement.
Oui, justement, c'est ça. Je pense que tout ne peut pas être retranscrit à travers le langage usuel, le langage écrit. Et justement... Dans ce qu'on fait de la sculpture, enfin, du moins pour moi, il y a vraiment des moments où je travaille avec la matière et c'est des choses que je pourrais pas exprimer ou justifier à travers le langage.
Beaucoup d'art ne nécessite pas d'explication, justement. C'est pour ça que je faisais appel au langage de l'émotion. Parlons de cette exposition. C'est la première fois que vous exposez à Metz ?
Oui.
Et comment s'est fait cette invitation, donc, par le FRAC Lorraine ?
Sophie Potellon et Fanny Gonella m'ont contactée, c'était à l'été 2025, pour cette exposition avec Beverly Buchanan. Il se trouve que j'avais déjà rencontré le travail de Beverly Buchanan en 2021. C'était une exposition des collections permanentes du LACMA, le musée de la ville de Los Angeles. Et à l'époque, j'avais voulu faire des recherches parce que ça m'avait vraiment pris son travail et j'avais rien trouvé sur Internet. J'étais assez frustrée. Donc ça a été une bonne surprise quand 4 ou 5 ans plus tard, on m'invite à travailler à côté d'elle. Et donc, je me suis un peu replongée, j'ai un peu demandé un accès à la collection qui allait être prêtée ou peut-être ce qui allait être montré pour cette exposition, parce que c'est une exposition sur 3 sites, Berlin, Metz et Bristol. Et donc, beaucoup d'intuitions se sont révélées assez justes par rapport au travail de Beverly. J'avais vraiment l'impression d'identifier certains points. Justement, par exemple, le fait que je pense que sa façon de vivre était très politique. C'est une femme noire de Caroline du Nord qui est partie faire des études de médecine pour devenir infirmière à New York. Et à un moment, elle a dit, vous savez quoi, j'ai envie d'être artiste, donc je vais devenir artiste. Tout se passait bien à New York. Et pourtant, elle a dit à un moment, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'habiter l'espace que j'ai envie de prendre. Donc, je vais repartir en Géorgie. Et elle a décidé de devenir artiste et de vivre sa vie de façon assez isolée, mais très affirmée. Et j'adore, enfin... Et justement, dans son travail, il y a vraiment des choix très affirmés qu'elle fait, mais tout est dit sans être dit, justement, sans être déclaré ou certaines... Elle n'a pas besoin de passer par un... Comment on dit ? Manifeste. Elle n'a pas besoin de passer par un manifeste pour vivre une vie qui est profondément politique et qui est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, en fait, parce que c'était une des premières générations d'artistes noirs américains, plasticiens et sculpteurs. Et son travail n'est pas évident à porter ou à affirmer à l'époque.
Vous avez 5 œuvres, hein, si c'est bien ça, qui sont exposées. Elles ont été conçues pour cette exposition ou vous les aviez déjà dans votre catalogue personnel ?
Non, je les ai vraiment pensées pour l'exposition. Tandis que je travaillais sur cette... tandis que je regardais dans le fond d'exposition le travail de Beverly Buchanan, j'ai eu des intuitions, des pistes de travail que j'avais déjà développées il y a longtemps, mais que je n'avais pas forcément poussées en tête. Et je suis venue à une série de 5 pièces sonores, lumineuses et sonores. Et... ensuite, qu'on a travaillé avec Milena Oldfield et Fanny Gonella pour qu'elle s'insère entre le travail de Beverly. Parce que c'est surtout une rétrospective du travail de Beverly Buchanan. Et moi, je suis une artiste invitée. Donc, il y avait cette pensée de présenter des pièces qui s'insèrent dans l'exposition et qui relèvent le travail de Beverly ou qui... relève l'espace. Et c'est pour ça que j'ai décidé de les répartir entre les 3 salles d'exposition, surtout au mur, dans des coins, et pas dans l'espace central, qui est vraiment le travail de Beverly Buchanan.
Il n'y en a qu'une d'ailleurs qui est au centre et dont on peut faire le tour, une seule sur les 5.
Ouais, et c'est une sorte de monde en soi. Enfin, en gros, dans mon travail de sculpture, en fonction des dimensions des pièces, parce que j'ai plutôt tendance à faire des petites pièces, mais récemment, je suis allée faire jusqu'à des pièces qui faisaient 1m50, 1m70, c'était assez nouveau pour moi. Et donc justement, on va dire que mes pièces lumineuses, elles oscillent entre la dimension... petite, où la lumière rappelle peut-être des formes d'exoto ou de reliquaires, jusqu'à des pièces un petit peu plus grandes qui évoquent peut-être plus des maquettes ou des modèles réduits d'un monde un peu plus abstrait. Je ne sais pas comment dire.
De quelle manière, puisque le travail de Beverly Buchanan, il existe, de quelle manière vous êtes intervenu pour créer ce dialogue entre vos deux espaces ? Parce que c'est un travail de l'espace, le sien, et vous avez apporté le vôtre aussi.
Je pense aussi que c'est aussi le travail d'un curateur, c'est qu'il sent des affinités entre des artistes et il les invite. Et ensuite, il y a un travail qui se fait où les choses s'accordent. On m'a déjà posé cette question, mais je pense que c'était quelque chose un petit peu d'évident. Et aussi, je travaille l'espace, donc j'arrive dans les espaces, je suis venue au Frac Lorraine entre 2 démontages, donc j'avais déjà une petite notion de l'espace. Et j'ai eu la surprise quand je suis arrivée il y a 3 semaines avant d'installer les pièces de l'accrochage qui était déjà très beau. Et ouais, ensuite c'est un travail d'harmonie. J'ai fini quelques pièces sur place, mais j'avais déjà une notion. Je pense que Beverly Buchanan, c'est surtout des travaux en îlot, en archipel. C'est un travail qui est assez massif. Donc j'avais déjà cette idée de travailler, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, proposer des formes qui soient plus satellitaires, au mur, dans des coins, pas si massifs que ça, assez fines. C'est pour ça que je n'ai pas forcément présenté beaucoup de pièces au sol, juste une. Deux ?
La première, elle est quasiment au sol.
Ah oui, oui, elle est au sol, elle est près du sol, mais elle est suspendue, c'est vrai. Mais oui, mais la pièce sonore aussi est pensée comme ça. J'avais envie de, comme le travail de Beverly Buchanan est très... En fait, la présence du corps est quasi absente dans son travail, malgré le fait qu'elle travaillait beaucoup autour de ses pièces, dehors, dans des climats un peu humides et un peu durs. Le corps n'est jamais suggéré. Donc j'avais cette idée de ramener du corps, mais de façon un petit peu abstraite, à travers cette bande sonore de respiration, qui est la respiration de trois amis à moi, ma sœur et moi, au travail ou au repos. Et c'est des respirations d'une bande sonore très ténue, très... subtil, mais qui au fur et à mesure de l'exposition et au fur et à mesure des échos, parce que les salles résonnent beaucoup, créent une forme de présence, de fantôme, un peu en bande sonore, tandis que la personne, que le public progresse dans l'espace.
Oui, plus on monte, puisque la dernière pièce est au dernier étage, et plus le son est prégnant, c'est vraiment, ça habite vraiment l'espace.
Ah ben, je suis contente que vous ayez. Que vous ayez vu ça. Oui, c'était la volonté. Et justement, enfin, je pense, c'est une exposition. Alors, on m'a dit que, et j'y crois, que les expositions au FRAC Lorraine sont plus des expériences solitaires, c'est-à-dire que les personnes viennent à deux, trois, peut-être moins en groupe, et progressent au fur et à mesure de l'espace. Et donc, j'ai fait cette bande sonore. J'ai pensé cette bande sonore comme ça, en me disant, au fur et à mesure de la déambulation du spectateur ou du public, je ne sais pas comment on peut parler de ça.
Le visiteur,
voilà. Il notice, c'est pas le mot, il remarque une respiration, différentes respirations qui progressent, qui rentrent en écho, peut-être entre la première et la deuxième salle. La troisième salle, on va dire, la respiration est la plus présente. Et lorsqu'il descend les escaliers jusqu'à la sortie, il y a une dernière bande sonore, qui est une bande sonore de cigales. Les cigales, pourquoi ? Parce que, en gros, la question de ces respirations, elle s'articule autour de la notion de dépense et de repos. Comme j'ai dit, Beverly Buchanan, c'est une artiste qui a beaucoup travaillé dehors et qui a beaucoup travaillé contre son corps, on va dire, parce que elle avait une forme d'asthme assez sévère. À cause des médicaments qu'elle a pris, elle a développé une forme de diabète. Elle travaillait tout le temps dehors, dans son jardin ou autour de ses œuvres. Ses œuvres qui, on peut bien deviner, vu la matière et les dimensions, n'étaient pas faciles à manipuler. Et vers la fin de sa vie, elle ne pouvait même pas aller au vernissage de ses propres expositions. Et ça se retrouve beaucoup dans ses correspondances, ce problème de sa santé. De l'autre côté, j'ai une réflexion ou une discussion au long cours avec des amis et ma sœur par rapport à cette question de dépenses et de repos. On est toutes des personnes qui travaillent dans l'art, l'artisanat ou les industries culturelles. Et il y a cette idée que c'est comme ça. On travaille beaucoup et on se repose très peu. Et il y a toujours cette idée qu'on ne peut jamais se reposer ou dormir sur nos deux oreilles. Et ce besoin ou cette poussée à tout le temps... surperformer. Et c'est une discussion où on essaie. Donc, j'avais envie de joindre ces deux réflexions et de les enregistrer en train de respirer, au repos ou au travail, et de les diffuser dans ces pièces sonores différentes et poser cette question, justement, de trouver un endroit où enfin, peut-être, se reposer.
Ce qui m'a amusé, c'est que la dernière pièce où la respiration est la plus forte, il y a une plus forte intensité, elle peut faire écho avec la propre respiration du visiteur, puisqu'il vient de monter un paquet de marches pour y accéder. Donc peut-être lui-même est essoufflé.
Ah, c'est drôle, j'avais pas du tout pensé à ça. En plus, il me semble que cette respiration, c'est moi en train de dormir. Donc je respire fort, apparemment. Non, mais donc voilà, il y a ces 5 respirations, plus la respiration de cigale, qui sont différents field recordings que j'ai fait. Et pourquoi la cigale ? Parce qu'il y a quelque chose d'assez beau et terrifiant dans les cigales, c'est qu'en gros, elles ont une courte vie, parce qu'elles chantent, elles chantent, elles chantent, elles chantent, elles performent, et elles en oublient de manger jusqu'à ce qu'elles meurent. Donc en fait, les cigales sont dans une dépense absolue qui leur coûte leur propre vie. Bon, j'y regarde la dimension romantique, là. Faut pas non plus prendre ça au premier degré.
On va parler de vos œuvres de manière un peu plus pragmatique. On a parlé de lumière, on a parlé de son, mais les matériaux aussi sont importants parce qu'ils travaillent l'espace, puisque vous jouez sur la transparence, vous jouez sur le miroir, sur le reflet.
Ouais, ça, c'est une réflexion. Donc, je travaille beaucoup avec la lumière, comme pour être de façon large, pour dire. Je travaille avec la lumière sous toutes ses formes. C'est-à-dire que dans mon travail, j'ai déjà travaillé avec des filtres colorés aux fenêtres ou des ampoules électriques. Ici, le plexiglas, pour moi, est très important pour ça. Les matériaux transparents, comme le latex. J'aime travailler avec la lumière sous toutes ses formes parce qu'elle répond à un paradoxe assez élémentaire. La lumière, en petite quantité, permet de voir, de comprendre, d'analyser des choses. Et de façon excessive, lorsqu'il y a trop de lumière, on ne peut plus voir. Ce qui a dû vous arriver lors de la visite de l'exposition. Et je fais un parallèle entre ça et le savoir. Je joue autour de ces notions-là. Je travaille aussi, ça m'intéresse beaucoup, justement, donc de guider le regard. Je fais souvent des boîtes, peut-être pas dans cette exposition, mais avant. Des boîtes avec de l'acrylique qui est opaque ou de l'acrylique qui est transparent. Car comme ça, je crée des sortes de boîtes qui montrent sans montrer. Je suis assez intéressée par ce paradoxe de montrer sans montrer. De montrer mais on ne peut pas voir. Ou de montrer et le regard, il y a des obstacles au regard ou à ce qu'on peut voir. Donc, ouais, je pense que c'est pour ça que je travaille avec tous ces matériaux et que je joue entre ces matériaux ou la rencontre de ces matériaux.
Pour conclure, est-ce que c'est la première exposition, puisque vous allez du coup suivre cette exposition à Berlin et à Bristol, ce sera la première fois que vous vous exposez à l'étranger ? Vous avez déjà exposé à l'étranger peut-être ?
Alors, je ne vais pas exposer, je n'ai pas exposé à Berlin et à Bristol. En gros, ce qui s'est passé, c'est que cette exposition comporte à peu près 200 œuvres de Beverly Buchanan en provenance des États-Unis, principalement des États-Unis, donc 3 musées européens. Je ne vais pas dire bien le nom, mais Oswald, je ne sais plus. Frank Loren et Spike Island à Bristol se sont réunis pour créer un circuit, une circulation de l'exposition sur 3 sites. Et chaque site a décidé d'inviter un artiste différent. Donc moi, je ne présente que au Frac Lorraine. Mais pour répondre à votre question, non, dans quelques mois, je présente 2 pièces qui ne sont pas présentes dans cette exposition au Mudam Luxembourg. Donc, pas très loin de Metz.
Ah ben, prévenez-nous, on ira voir. C'est effectivement pas très loin.
Oui, c'est une exposition qui ouvrira en juin 2026, qui s'appelle Video Kills the Video Star. Non.
C'est une chanson de 1979.
Oui, mais d'ailleurs, j'ai pas donné le bon titre. Mais oui, c'est bien le titre. c'est sur les années MTV ou les années Reagan et leur influence aujourd'hui, pour faire court.
D'accord. Dernière chose, cette exposition, je trouve qu'elle vient à point nommé parce qu'il y a quelque part, il y a quand même une résonance avec l'exposition qu'on peut trouver au Centre Pompidou-Metz depuis quelques semaines sur Louise Nevelson, sur le jeu de l'espace et avec des matériaux de récupération, avec des matériaux divers. Est-ce que vous avez vu cette exposition-là ? Est-ce que vous en avez profité de votre passage à Metz pour la voir ?
Non, j'étais trop... mais justement, c'était mon point... J'ai gardé un jour de plus dans mon séjour à Metz. Je pensais samedi, je vais aller au Centre Pompidou-Metz parce que ce serait la première fois que j'ai l'occasion d'y aller. Donc j'ai assez hâte.
Je vous remercie.
Merci à vous.
Troisième pause musicale proposée par Fanny Gunella. On repart en arrière, dans les années 60, plus précisément en 1967, avec le fameux Sitting on the Dock of the Bay, plus grand single d'Otis Redding, mais sorti de manière posthume.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time.
Enfin, intéressons-nous à Anaïs Marion pour son exposition dans l'espace Degré Est, une exposition touchante qui, elle aussi, parle de mémoire, d'itinérance, puisqu'elle a entrepris de remonter le tracé de la Bagdad-Ban, ce chemin de fer reliant Berlin à Bagdad en Irak et qui a servi pour beaucoup à acheminer les œuvres mésopotamiennes dont l'Occident et principalement l'Allemagne s'est accaparé. L'exposition d'Anaïs Marion a beau tenir du témoignage, de l'enquête, de l'observation, il est rempli de poésie et de sensibilité. On l'écoute.
Je m'appelle Anaïs Marion, je suis artiste plasticienne. Je suis née à Metz en 1992 et j'ai fait mes études à Poitiers, à l'école d'art de Poitiers. J'ai eu mon diplôme en 2017 et j'ai une pratique qui est très liée à l'image, aux documents et au texte.
Vous êtes née à Metz, vous n'avez pas fait vos études d'art à Metz. Comment ça se fait ?
En effet, je crois que j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Ce qui se retrouve peut-être un petit peu dans l'exposition aussi, puisqu'on parle beaucoup de voyages, et j'ai, je crois, toujours eu envie d'aller voir ailleurs.
Donc, Au rez-de-chaussée du FRAC, il y a une pièce qui est dédiée à votre travail. C'est une exposition assez particulière parce qu'elle invite au voyage, elle invite à la réflexion sur la manière dont l'Occident a pu s'approprier les œuvres d'art mésopotamiennes. Et donc le voyage, donc expliquez-nous un petit peu le fondement de cette exposition et qu'est-ce qu'elle représente pour vous.
Alors effectivement, l'espace Degré Est regarde vers l'Est, mais le Middle East, on peut dire. C'est un projet qui est né il y a plusieurs années, il y a presque une dizaine d'années, quand j'ai découvert l'existence d'une ligne de chemin de fer qui, pendant un temps, a relié Berlin à Bagdad. Et j'étais au Liban quand j'ai découvert cette histoire et je me disais, mais c'est incroyable d'imaginer qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait relier par la terre et traverser toutes ces frontières qui sont aujourd'hui complètement fermées. Ce qui m'a donné l'envie et l'idée de reconstituer ce voyage, de moi-même le refaire sur les traces, notamment de patrimoine qui a été déplacé. Pour la légende, cette ligne de chemin de fer a été commencée par les Allemands au XIXe siècle, dans l'idée de pouvoir ramener en Europe des pièces archéologiques monumentales qui étaient trouvées à l'époque en Mésopotamie.
C'est assez dingue d'imaginer aujourd'hui en 2026 comment on pouvait investir autant d'argent, parce que créer une ligne de chemin de fer spécifique pour ça, uniquement pour rapatrier des œuvres d'art.
Oui, alors en réalité, je pense que le fondement de cette dépense était plutôt de sécuriser un approvisionnement vers le pétrole. Mais en réalité, le musée de Pergame, par exemple, a été construit quasiment pour accueillir ces vestiges monumentaux. Donc effectivement, la dépense et les envies, les fantasmes, je pense aussi, il y a beaucoup d'orientalisme là-dedans, de pouvoir accueillir ici des pièces dont, en réalité, on est toujours aujourd'hui, on appelle toujours ça un des berceaux de notre civilisation. Donc en fait, il y a une filiation. Et je crois que cette appropriation de ce patrimoine, elle est aussi liée à cette filiation. Voilà, c'est l'endroit où on a inventé l'écriture. Et je pense que c'est pour cette raison qu'on a eu envie de déplacer des monuments qui pèsent plusieurs tonnes, qui sont de dimensions complètement incroyables. La porte d'Ishtar, qui est au musée de Pergame, est une porte vraiment monumentale. Il y a eu des centaines et des centaines de caisses qui ont été déplacées depuis l'Irak jusqu'à Berlin de manière assez incroyable.
Il y a deux narratifs, en fait, dans l'exposition. Il y a cette ligne de chemin de fer que vous avez remontée en repartant à la source. Mais vous avez aussi un compagnon de voyage. C'est ce taureau ailé qui est une figure de la culture mésopotamienne. Et vous en aviez une petite reproduction. Et cette petite reproduction, vous l'avez faite voyager au fil de vos pérégrinations le long de cette voie de chemin de fer.
Oui, symboliquement, j'avais envie de le ramener sur sa terre d'origine. Et il symbolisait aussi pour moi trois strates d'histoire différentes. Il y a l'antiquité mésopotamienne d'une part, il y a toute l'histoire et industrielle, le chemin de fer, et archéologique du 19e siècle, et ce qu'on en fait aujourd'hui. Et cette reproduction, je l'ai trouvée dans la boutique du musée de Pergame à Berlin. Et l'idée de le ramener, alors dans un premier temps, puisque la première partie du voyage a été faite en 2018, je savais que je n'arriverais pas au bout de ce voyage et j'ai dû attendre que les procédures, que l'Irak aille mieux déjà et que les procédures pour obtenir un visa soient plus faisables. Je tenais également à le faire en tant que touriste. Et ce travail autour des objets souvenirs, de formes d'appropriation et de redéplacement, en fait, à travers des gens qui achètent ces souvenirs, qui les ramènent à la maison, comme une manière un petit peu de posséder un bout de la grande histoire avec soi. Elle était aussi reliée à, en 2018, aussi symboliquement à des déplacements de population. Je faisais aussi la route inverse de plein de personnes qui avaient quitté l'Irak à cause de la guerre.
Vous avez voyagé toute seule, tout ça, vous l'avez entrepris seule ?
J'ai voyagé toute seule avec mon sac à dos et mon lamassu.
Le fameux taureau ailé. Mais ce taureau ailé, c'est celui qu'on retrouve sur la petite étagère à côté des livres, c'est ça ?
On le retrouve à plusieurs endroits, en fait, dans l'exposition. Il y a vraiment tout un jeu sur les copies et les différentes effigies, en fait, qui se sont transformées petit à petit, démultipliées. C'est déjà pas un objet unique, en fait, c'est une divinité protectrice qui était présentée par Per à l'entrée des portes des cités mésopotamiennes et qui donc protégeait, en fait, intégrée dans les murs, protéger les seuils d'entrée et de sortie des villes mésopotamiennes. Il est à la fois présent sur la petite étagère, effectivement, mais il est aussi représenté en plus grand, presque à échelle humaine, sur fond vert, comme si son effigie s'était un peu dissolue au fil du voyage. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en partant de Berlin. Finalement, je partais de Berlin où je voyais des vestiges authentiques, et plus je m'approchais de l'endroit où réellement ils ont été trouvés, plus j'avais la sensation que son image se dissolvait et que je n'avais plus accès, en fait, à de vrais vestiges.
Mais quand je parlais du Torelli, c'est vraiment la figurine qui vous servait de compagnon. C'est bien celle-là ou vous l'avez laissée sur place ?
Non, c'est bien celle-là. Et je l'ai finalement ramenée. Ça a été une question à un moment donné de dire est-ce que je la laisse ? Est-ce que je la donne au Musée national irakien, par exemple ? Et finalement, je n'ai pas eu l'opportunité. Alors aussi parce qu'en novembre 2025, quand j'ai fait la deuxième partie du voyage, cette fois, je suis allée en avion puisque le train n'est toujours pas remis en route. Je l'ai photographiée à la gare de Bagdad. Et puis le Musée national irakien était fermé. Je me suis dit, bon, j'ai un témoignage, j'ai une photographie de sa présence sur place et je le ramène avec moi.
Justement, je rebondis, vous avez parlé du mot témoignage. Il y a divers témoignages de votre pérégrination donc en deux fois. Vous venez de nous l'expliquer. C'est à la fois les photographies, vous avez pris des photographies au fur et à mesure de votre voyage, mais vous avez aussi ramené des pierres.
Eh bien, j'ai collecté tout au long de mes deux voyages des pierres de ballast qui se trouvent sous les rails, ces petits cailloux qui sont sous les rails, dans chacune des gares que j'ai traversées, un peu en témoignage de cet itinéraire, effectivement. Il y a aussi des photos et des documents. Finalement, la manière avec laquelle l'exposition s'est montée, toute cette composition de différents éléments, il vient presque témoigner d'une performance qui serait le voyage, en plus que d'être aussi un assemblage et une forme visuelle, une œuvre en soi.
Votre travail, cette exposition, le fruit de votre réflexion à travers ces deux voyages, est-ce qu'il n'accompagne pas un mouvement plutôt actuel où les pays qui ont été spoliés redemandent leurs œuvres au moment où les musées occidentaux rétrocèdent des œuvres qu'ils avaient acquises en les volant dans les pays qu'ils avaient colonisés ?
Oui, en fait, ma réflexion à moi, elle part de ça. Je me suis intéressée à cette histoire parce que je m'étais intéressée à d'autres demandes de restitution d'autres pays comme la Grèce et l'Égypte. Mais en revanche, l'Irak est un cas un peu particulier. J'ai posé beaucoup la question en Irak aux personnes que je croisais. La demande de restitution, elle n'est pas aussi claire et revendiquée que ça. Il y en a eu, pour certaines. Il y a eu des mouvements pour récupérer les briques de la porte d'Ishtar, par exemple, ce qui serait très compliqué à mettre en œuvre. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit « En fait, on est très content que ces œuvres elles soient présentées au Louvre, au British Museum ou au musée de Pergame. » Parce qu'ici, vu ce qui s'est passé dans le pays, elles auraient été détruites, parce qu'il y a plus de monde qui y a accès en Europe de l'Ouest plutôt qu'en Irak, où il est très difficile d'aller. Et voilà, je crois que la revendication, elle est pas aussi radicale, aussi pensée. L'état dans lequel sont les sites archéologiques, dont il y a notamment quelques images dans l'exposition, les sites archéologiques autour de Mossoul ont subi beaucoup de destruction entre 2015 et 2018 par Daesh. Et j'ai voulu aussi, d'ailleurs, dans l'installation, faire la part belle à ces images. On a vu les images des destructions, mais on ne voit pas comment, plusieurs années après, en l'occurrence six ans ont passé depuis que la fédération irakienne a récupéré Mossoul. Et donc, on a du mal à imaginer à quoi ça ressemble. Et tout le travail des archéologues aujourd'hui, qui est incroyable, participe à soigner, à restaurer tous ces sites qui ont subi des destructions terribles.
On sait ce qui s'est passé à Palmyre notamment, qui était le point d'ancrage le plus catastrophique pour le patrimoine.
Oui, alors il y a eu Palmyre et puis très peu de temps après, le musée de Mossoul et Nimroud, Ninive, toutes ces zones ont été occupées militairement par Daesh. Et on se souvient, en tout cas je me suis souvenue, notamment quand j'y suis allée pour de vrai, avec beaucoup d'émotion, des images filmées par Daesh où vraiment ces figures de la Massou étaient attaquées au marteau-piqueur, à la masse. Manière très violente.
Donc quelque part, il y a une double lecture dans votre travail à travers cette exposition-là. C'est la vôtre personnelle, peut-être même émotionnelle, et puis cette dimension beaucoup plus large, beaucoup plus politique.
Oui, c'est assez récurrent dans mon travail. Je pense ce que j'ai envie de donner à voir, je le donne à voir un peu avec ma perception très subjective. Le texte qui accompagne aussi l'exposition dans un livret que les gens peuvent emporter avec eux est écrit à la première personne. Et je crois que c'est aussi par ce regard un peu intime que j'ai envie de pouvoir toucher les gens qui verront l'exposition et que cette première personne, voilà, elle fasse écho en fait au souvenir des personnes qui pourront voir les images.
Je vous remercie.
Avec plaisir.
Pour rappel, il vous reste 2 mois pour aller voir l'exposition Impermanence consacrée à Beverly Buchanan, dont il faut savoir également que ses travaux sont présents à la 60e exposition internationale d'art de la Biennale de Venise. Et vous profiterez de voir les travaux de Beverly Buchanan, du dialogue proposé par la jeune artiste française Hélène Yamba-Gimbi, tout en faisant un détour par l'espace Degré Est pour profiter du travail de la Messine Anaïs Marion. 4e et dernière pause musicale, choisie par Fanny Gonella, la directrice du FRAC Lorraine, Janelle Monae, et le titre c'est Mushrooms and Roses. C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée et à bientôt.
Her name slips my mind. Ah, her name was...